Un auteur toulousain vient de publier une bande dessinée sur l'intelligence artificielle.
Génération IA, l'intelligence artificielle et nous, c'est le titre de la bande dessinée de Luc Trunzler, auteur toulousain et expert en intelligence artificielle depuis plus de 15 ans. C'est le moyen idéal de plonger dans cet univers afin de l'utiliser à bon escient. Bonjour Luc Trunzler.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Avec joie. Alors, c'est votre première BD, mais c'est quand même votre troisième ouvrage, puisque vous avez déjà écrit à l'été 2025 l'IA pour la créativité et en 2024 le guide de l'IA en entreprise, manuel de survie pour les PME, tous deux aux éditions First. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans l'IA ?
Alors, je suis tombé dedans par hasard. C'était il y a 15 ans. J'ai fait mes études à Toulouse, à l'INSA de Toulouse, en tant qu'ingénieur informatique. Et j'ai découvert du coup cet univers-là. J'y suis resté ces 15 dernières années et je compte encore y rester. C'est un outil que je trouve fascinant, très puissant. Mais comme tout outil très puissant, il y a aussi derrière des responsabilités, des limites et des risques qu'il faut conscientiser. Et du coup, depuis 15 ans, j'aime, et j'ai essayé de le retranscrire dans cette BD, vulgariser ce qu'il y a. Quels sont ces différents fonctionnements, on verra qu'il y en a plusieurs, mais aussi encore une fois ses limites et ses risques pour que chacun puisse y trouver derrière son compte et en avoir l'usage, je dirais, le plus responsable possible.
Et c'est effectivement le format BD qui permet d'avoir cette accessibilité et d'expliquer des termes dont on peut entendre parler, mais dont on ne comprend pas forcément le sens. Qu'est-ce que vous avez voulu... Enfin, pourquoi vous avez choisi ce format de BD? Vous auriez pu vous dire, je vais continuer dans un livre.
Alors, en effet, l'idée était pour moi de trouver un levier pour vulgariser à plus grande échelle. C'est-à-dire que depuis 15 ans, je fais des conférences, mais quand on est dans une conférence, c'est en moyenne 20, 30, 50, 100 personnes des fois. Alors, j'ai fait un TEDx une fois, c'était 1000 personnes, mais c'est assez rare. Et du coup, je cherchais un levier pour médiatiser à plus grande échelle cette vulgarisation avec des images, parce que ça passe toujours mieux. D'où l'idée du coup d'en faire une BD documentaire. Donc c'est un format aussi que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il y a 2 ans maintenant. Donc une BD documentaire, c'est une BD donc avec des images, vous l'avez compris, à travers un récit, mais qui vise à enseigner quand même des sujets assez complexes. L'idée étant de le rendre à portée dès l'âge de 14 ans à la grande majorité de la population.
Voilà, et puis comme on est dans cette période de Noël et que les familles se retrouvent, on peut très bien imaginer que ce livre peut être aussi offert dans cette période de fête. Thomas Rajot, c'est le dessinateur de la BD Génération IA, l'intelligence artificielle et nous. Donc il est nantais, vous êtes toulousain. Comment vous avez travaillé tous les deux ?
Avec du coup l'internet,
en
distance. On ne s'est pas encore rencontrés, on devait se rencontrer peut-être à Angoulême. Malheureusement, le festival a été annulé pour une séance de dédicace. Donc tout s'est fait à distance. En fait, j'écrivais moi le scénario, j'écrivais pour telle ou telle page, telle vignette, voilà moi ce que j'ai en tête. Et lui ensuite, avec sa propre expertise, sa patte artistique, il retranscrivait du coup ce que je lui proposais sur des dessins que je validais avant qu'il passe sur ce qu'on appelle du line, donc un dessin plus fin, avant ensuite de passer à la dernière étape, qui est la colorisation.
Ah oui, c'est ça. Donc, à chaque fois, vous avez eu des allers-retours et vous avez dit, là, c'est bien illustré, ça, c'est compris, ça, c'est... Exactement. Il faudrait ajuster, etc.
Exactement. Ouais. On avait aussi un chef de projet aux éditions Duno qui était là, au milieu, je dirais, pour nous challenger également. Typiquement, moi, je mettais pas assez de virgules dans mes phrases, par exemple. Donc, j'ai appris à mettre plus de virgules, par exemple.
C'est des détails. Alors, il y a trois protagonistes dans la BD Génération IA, l'intelligence artificielle et nous. Il y a le grand-père et il y a ses deux petits-enfants, Paul et Natacha. Quel contraste vous avez voulu montrer à travers ces trois personnages ?
Donc il y a deux choses que j'ai voulu illustrer à travers ces trois personnages. Il y a aussi deux autres personnages qui sont les parents.
Oui, c'est
donc
vrai.
C'est, on va dire,
donc
la génération qui est entre les deux. L'idée, c'était de montrer que l'IA, ça ne date pas d'hier ou d'il y a 3 ans précisément, parce qu'il y a eu beaucoup de buzz depuis la sortie de ChatGPT qui a démocratisé la troisième phase de l'IA dans laquelle on se trouve actuellement, qui est l'IA générative. Donc c'était fin d'année 2022, souvenez-vous-en. Ça passe vite. Mais voilà, ça ne fait pas que 3 ans que l'IA aujourd'hui existe. Le terme est apparu en 1956. Donc l'IA fête cette année, c'est 69 ans.
J'ai voulu montrer... C'est déjà une découverte dans votre BD. Moi, j'avoue que je ne le savais pas.
Donc c'est tout à fait l'idée. C'est vraiment d'apporter aussi ce recul. L'IA, donc ça fait 3 générations que ça existe. Ça a bercé l'informatique et ça accompagne aujourd'hui le monde de l'informatique. Et j'ai voulu aussi, à travers ces personnages, si on en parle un peu plus dans les détails, on a Natacha qui est une data scientist, donc une personne qui est à fond, je dirais, dans dans l'IA, qui est jeune. Et
très connecté.
trop connecté.
Trop parfois, oui.
Comme beaucoup, malheureusement, de personnes aujourd'hui. Mmh. Et à son opposé, il y a son frère, qui lui est permaculteur, donc quelqu'un qui n'est pas du tout, en tout cas qui n'a pas cet attachement très fort à l'informatique, mais plutôt à la nature, et au rythme lent, mais bénéfique de la nature. Et ils vont tous les deux, bien entendu, confronter des idées, des visions du monde, qui vont les amener chacun à trouver, je dirais, le juste milieu, parce que c'est un peu ça que j'essaie de transmettre dans cette BD, c'est donner des connaissances pour que chacun, à l'image de Natacha et de Paul, trouve derrière le bon usage de cet outil qui est très puissant, mais encore une fois, qui peut aussi être très dangereux, suivant comment l'humain va l'utiliser.
Et ce qui est intéressant dans cette relation entre ce frère et cette sœur, c'est que, alors, vous avez dit, ils se confrontent, mais ils s'affrontent aussi, parce que il y a des disputes.
Comme un sœur, une frère.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ce Paul qui travaille dans la permaculture, il essaye de comprendre aussi. Et Natacha, elle essaye aussi de comprendre. Donc, il y a une certaine écoute, une bienveillance entre eux qui est assez touchante, je trouve.
Tout à fait. Cette bienveillance, j'ai voulu l'apporter par le personnage Arix, qui est du coup le grand-père, qui est, on va dire, le sage, qui va justement essayer d'amener ses deux petits-enfants à s'ouvrir, à réfléchir justement à ces sujets-là. Je précise aussi, le récit se passe dans le sud de Toulouse, près du lac de Nayou, le lac de Tézoc, où j'habite pas très loin, qui m'a beaucoup inspiré notamment.
Oui. Et ce grand-père, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il n'est pas du tout en dehors de tout ce qui est intelligence artificielle et puis nouvelles technologies. En fait, il a travaillé dans ces domaines-là et donc il est capable d'échanger avec ses petits-enfants.
C'est ça. Alors lui, il représente les deux premières phases de l'IA, l'IA déterministe et l'IA connexionniste. Et c'est sa petite fille qui va l'initier à la troisième phase dans laquelle on se trouve, ChatGPT, parce qu'il a pris sa retraite avant les années 2020. Donc, il n'a pas suivi les toutes dernières vagues de l'IA. Donc, ça montre aussi qu'on a beau avoir vécu toute sa vie dans l'IA, on comprend quand même pas mal de notions. Mais on peut avoir raté des wagons entiers si on ne s'est plus connecté. Et c'est le cas du grand-père, mais qui va rapidement, parce qu'il a en effet des très bonnes bases, rattraper le train et être en capacité, avec sa sagesse, encore une fois, de permettre à ses deux petits-enfants un peu fougueux de prendre un peu de recul.
Oui, c'est ça qui est beau. Et puis ce qui est très amusant dans ce personnage du grand-père, c'est qu'on voit qu'il est très connecté. Et c'est des petites touches d'humour qui sont amusantes. Alors, c'est vrai que quand on parcourt les pages de votre bande dessinée, on découvre des mots familiers pour certains, inconnus pour d'autres. La machine apprenante, l'IA connexionniste, vous venez d'en parler, le deep learning. Comment vous parvenez à expliquer ces notions qui sont quand même abstraites?
C'est en effet assez poussé, scientifiquement parlant. Et donc, j'essaye de l'illustrer avec des objets du quotidien. Donc, par exemple, comment fonctionne un réseau neuronal, donc tout ce qui est au cœur du deep learning, voire de certains algorithmes de machine learning, je l'illustre avec des pâtes et des petits pois lorsqu'ils sont dans la cuisine. Donc, c'est une BD documentaire. Ce passage-là en particulier est un des plus ardus, mais on prend le temps avec des dessins de l'expliquer. C'est pas une BD qui se lit d'une traite. On digère d'abord les petits pâtes et les petits pois, donc tout ce qui est machine learning avant de s'attaquer au reste. Mais l'idée, en effet, c'est quelque chose de fait depuis 15 ans et que j'ai essayé, là, du coup, de mettre en image.
Oui, de vulgariser. Et donc, si j'ai bien compris, il y a trois phases de l'intelligence artificielle. Et donc, vous détaillez finalement chacune de ces phases.
C'est ça, donc c'est une chronologie depuis les années 40, l'avènement de l'informatique jusqu'à aujourd'hui. Et on va, en effet, chronologiquement expliquer chacune de ces phases, comprendre les points forts et les points faibles de chacune, voir qu'elles coexistent toutes les trois encore aujourd'hui, mais qu'elles n'ont pas non plus le même degré d'accessibilité. La troisième, qui est l'IA générative, c'est celle dont on parle le plus, parce qu'elle est extrêmement accessible. Il suffit de parler le langage naturel, de prompter, ce qui n'était pas le cas pour les deux précédentes phases.
Oui, c'est ça. Et puis pour illustrer justement ces concepts, vous prenez des comparaisons, par exemple avec le train, l'électricité, ce qui permet de comprendre aussi l'évolution de ces technologies.
Voilà, on ne réinvente pas la roue, je dirais, sur les phénomènes de société. À chaque nouvelle technologie, il y a les mêmes peurs qui ressurgissent à chaque fois. C'est normal, on est tous des êtres humains, on a peur du changement et donc on a souvent les mêmes réflexes et donc on reprend souvent en référence ce qui s'est passé par le passé pour mieux anticiper ce qui va arriver demain.
Ah oui, c'est ça. Alors justement, Luc Trunzler, vous abordez dans votre BD les limites et les risques de l'IA. Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques-uns?
Oui, donc il y en a 6 que j'aborde dans le document, je vais les citer, après on pourra détailler celles que vous souhaitez. Il y a l'empreinte environnementale, il y a ce qu'on appelle les hallucinations, le fait que ces modèles d'IA comme des humains, entre guillemets, parce qu'ils sont bio-inspirés de notre fonctionnement, peuvent des fois faire des mauvaises extrapolations. quand elles n'ont pas la réponse. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Ça, c'était la deuxième. La troisième, c'est la protection des données. On sait que ces IA, notamment les connexionnistes, ont besoin de données pour apprendre à développer certaines de nos capacités humaines. Et donc, si ces données, malheureusement, elles sont personnelles, on peut malheureusement être confronté à des fuites de données. Toujours liées aux données, on a une quatrième limite et risque qui consiste à parler des biais. Les biais d'apprentissage. Ah oui. Si on a des données biaisées, c'est le cas sur Internet, et ben l'IA va répliquer ces biais-là. Ensuite, on a la cinquième, je crois, ça va être du coup l'inexplicabilité. Donc ça, c'est un concept un peu plus complexe là, abordé à la radio, mais qui, en gros, dans l'idée, on est sur des modèles qui sont probabilistes et qui ne vont pas toujours donner la même réponse par rapport à l'entrée qu'on va donner. Et la toute dernière limite, c'est celle qui m'intéresse le plus actuellement dans mes recherches, c'est la perte d'expertise. On est face à un outil qui est très puissant et on sait que si on délègue beaucoup de choses à cet outil, on va gagner du confort parce qu'on a besoin aussi dans notre instinct de survie à économiser notre cerveau qui consomme quand même 20% de notre énergie. Mais en faisant ça, du coup, on muscle moins notre cerveau. Et donc, on pourrait être amené, et c'est évident, et ça a été même prouvé déjà scientifiquement, il y a une étude du MIT qui est sortie en juin sur le sujet, à perdre certaines de nos capacités cognitives, à trop utiliser ces outils-là. Comme on perd des capacités d'orientation spatiale si on utilise trop le GPS, qui nous apporte certes du confort et du gain de temps, mais à côté, on a des perditions forcément au niveau de notre principal muscle, au niveau de la tête, qui est le cerveau.
Et justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas perdre ces capacités cognitives, tout en continuant à utiliser l'IA, parce qu'on est bien d'accord qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
Ça va être difficile, en effet, de ne plus faire sans. Donc déjà, c'est de prendre conscience, c'est la première étape, que je peux perdre des capacités avec cet outil-là. Donc après, je prends du recul et je me dis, OK, quelles sont les capacités que je veux garder et quelles sont celles que je veux, en effet, déléguer à l'IA. Si je prends mon exemple, aujourd'hui, moi, j'ai pris la décision de continuer moi-même systématiquement à faire mes propres emails à partir d'une page blanche ou à organiser mon propre agenda, alors qu'il y a des IA qui vous proposent de faire ça à votre place. Les emails en anglais, je les fais moi-même. Ça n'a pas toujours été le cas. Il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, c'était en 2023, je faisais tous mes mails en anglais. Mais j'ai constaté qu'au bout d'un an, en effet, j'avais perdu certains réflexes, certaines mécaniques, et j'ai pris peur du coup de perdre cette capacité de rédaction d'emails en anglais. Donc il faut faire des choix et pas être naïf, parce que je sais que j'ai d'autres capacités par contre que je suis en train de perdre. Le résumé d'un livre blanc, vous me donnez un livre blanc, je le donne aujourd'hui, je vais être transparent, à ChatGPT. Et donc je vais rapidement avoir un résumé, mais cette capacité que j'avais peut-être à une époque de lire en diagonale, d'extraire les principales informations, de faire un résumé assez rapide, je suis en train de la perdre, cette capacité.
Ah oui, c'est ça. Donc vous acceptez quand même.
Il faut faire des choix.
Ces choix, ouais.
Chacun à sa porte, ouais. Doit faire ses choix. Donc ça, c'est un travail que chacun doit faire de son côté, qui n'est pas facile à faire pour des jeunes. Pour ça que c'est des outils aujourd'hui qui sont interdits par l'éducation nationale avant la quatrième, parce que les jeunes n'ont pas forcément assez cette maturité, ou alors il faut qu'ils soient très bien accompagnés par des adultes pour arriver à faire ce discernement sur les capacités qu'ils veulent garder à un moment de leur âge où ils n'en ont pas encore beaucoup.
Oui, oui. Un dernier mot sur cette arrivée massive de l'IA qui vient bousculer le monde de l'art, puisque le récit de votre bande dessinée commence par un épisode de la maman qui est graphiste et qui n'a pas eu un contrat, parce que justement, c'est l'intelligence artificielle qui va réaliser son chantier, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il faut nécessairement préserver face à l'IA ?
Donc c'est des choix de société qui peuvent aussi être faits. Ouais. Aujourd'hui, l'IA potentiellement pourrait tout automatiser un jour. Alors pour l'art, on y est encore très 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 loin. La BD que j'ai faite ici, elle est impossible à faire avec l'IA.
C'est 100% humain.
C'est 100% humain parce que chaque page, l'IA, vous verrez à peu près 8 vignettes avec des personnages qui sont à chaque fois cohérents d'une vignette à une autre. Et le faire avec l'IA, ça prendrait beaucoup plus de temps. De dire, voilà, je veux une image avec une personne qui lève le doigt à 2 cm, le petit index, le sourcil. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a personne qui a cette capacité. Peut-être dans quelques années, quelqu'un aura cette capacité verbalement de décrire tout ça, mais aujourd'hui c'est plus rapide de prendre un stylo et de le faire. Donc on est encore très loin de pouvoir automatiser ce genre de choses. Peut-être qu'on y arrivera un jour, et si on y arrive un jour, en tous les cas, ça sera nous en société de dire ça, je suis d'accord que ça soit fait par l'IA ou pas. Ouais. Il y a déjà un règlement qui existe, qui est le règlement européen sur l'IA, qui dit déjà ça, on peut le faire avec l'IA, mais on veut pas. Donc c'est des choix de société
déjà posées
sur des choses que techniquement on peut faire, mais qu'en société on a dit non, on n'est pas d'accord.
D'accord. Merci en tout cas beaucoup, Luc Trunzler. Je rappelle donc le titre de votre bande dessinée Génération IA, l'intelligence artificielle et nous, donc avec des dessins de Thomas Rajot et puis évidemment aux éditions Duno Graphique. C'était votre grand entretien sur Radio Présence.
Merci beaucoup.